un autre regard.
C'est complètement possible de franchir ce qui était des barrières avant.
C'est dicton, rien sur nous sans nous, en gros. Quoi. Voilà, c'est, on veut participer aussi.
Un autre regard sur le handicap psychique.
Bonjour à tous, bonjour Arnaud. Donc aujourd'hui avec le collectif Santé Mentale 53, nous sommes allés à la rencontre d'une association, l'association Pouvoir d'Agir 53. On a rencontré Delphine et Alexandre qui nous ont parlé de leur parcours de rétablissement. Est-ce que tu peux nous dire deux mots, nous toucher deux mots de l'asso?
Bien sûr Myriam. Ce qui fait la richesse de cette association, c'est vraiment qu'elle est construite et animée par des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est Delphine et Alexandre, père aidant, qui viennent nous raconter leur parcours.
Tout à fait. Et du coup, ces parcours, ce témoignage, ça nous permet d'aborder des notions qui sont assez nouvelles en santé mentale. Alors, Alexandre et Delphine vont le faire clairement. Ils vont nous parler du rétablissement, du savoir expérientiel, de l'empowerment, de la père aidance. Voilà.
Alexandre Durand, j'ai 29 ans. Je suis travailleur père au sein de l'association Pouvoir d'Agir, qui est une association de pères aidants dans le trouble psychique. On a un dispositif d'accompagnement qui s'appelle ESPER et qui a engagé Delphine et moi justement comme travailleur père. On suit au quotidien des personnes qui souffrent de troubles psychiques, donc. On participe également dans les principales missions d'ESPER, on participe également à la formation. La sensibilisation, la déstigmatisation des personnes qui ont des troubles. Mmh. On collabore avec d'autres professionnels sur Laval, en Mayenne, pour orienter au mieux et répondre au mieux aux demandes et aux besoins des personnes en situation de handicap psychique.
Est-ce qu'on peut faire un point peut-être sur ce qu'est la père aidance? Je ne sais pas, Delphine.
La père aidance, c'est aider, d'après ce que l'on sait, ce que l'on a appris de notre maladie, au mieux pour que... les autres aient une vie acceptable, supportable et avec leurs troubles à eux, en fait.
D'accord. On souhaitait aussi vous rencontrer aujourd'hui parce que on voulait... je sais que vous avez deux parcours différents. Je ne sais pas, Alexandre, si tu veux commencer.
Je ne sais pas trop par où commencer, je vous avouerai, mais ouais. Je vais commencer par l'apparition des troubles déjà. Quand j'ai découvert que j'étais schizophrène. Enfin, j'ai pas eu le diagnostic, c'est vrai que c'est en plusieurs temps ça.
Ouais.
L'apparition des troubles, quand on a le diagnostic, l'hospitalisation. Moi, ça a apparu en décembre 2014. J'ai été hospitalisé au SPAL de Laval durant un mois. On m'a parlé de crise psychotique aiguë. Donc après, ça m'est suivi la sortie de l'hospitalisation, une longue convalescence, au moins 6 mois, où j'étais pas bien. Voilà, je vivais assez mal cette situation. Ensuite, petit à petit, je me suis remis en marche. J'ai été beaucoup soutenu par mon entourage, les amis, la famille. Mmh. C'est très important de pas être tout seul dans ce genre de situation, d'être sentir soutenu parce qu'à un moment donné, on ne trouve plus beaucoup de sens dans notre vie, même si c'est un peu notre vie qui est brisée à un moment donné. Et c'est, on continue en plus pour les autres que pour soi, en fait. Et c'est hyper important d'être soutenu à ce moment-là. Je pense que c'est même le principal point dans la première étape, quand on découvre la maladie, qu'on apprend à vivre avec la maladie. Ça m'a suivi un parcours où j'ai fait des petits boulots, où je reprenais un petit rythme de vie, je me reprenais un peu en main. Je cravachais un peu, mais step by step, et petit pas par petit pas. Je suis finalement décidé de reprendre les études.
Ouais.
Parce qu'à l'origine, j'avais fait avant de ma crise, je venais d'obtenir mon diplôme d'école de commerce. Et après tout ça, j'étais rendu à l'évidence que c'était clairement pas fait pour moi. Enfin, j'avais déjà eu cette sensation-là durant les études, mais après, avec le recul, clairement, je disais que c'était pas fait pour moi. Je me voyais pas là-dedans. Et j'ai décidé de me lancer en licence de psychologie à Angers. Et j'ai fait une licence de psycho qui s'est très bien passée et qui a beaucoup participé à mon rétablissement. En fait, le rétablissement, c'est en gros retrouver une vie satisfaisante.
Mm-hmm.
Et ça a énormément participé parce que ça a permis de reprendre un rythme, de me resocialiser, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir une nouvelle ville. C'était un nouveau départ en quelque sorte, et ça s'est très bien passé. J'ai fait une rechute quand même en deuxième année, mais je suis assez vite revenu au final. Maintenant, je suis stable depuis 3 ans.
Et juste, excuse-moi, en parallèle, tu poursuivais tes soins malgré tout
Toujours, oui. Justement, c'est vrai, avec la rechute, j'ai été donc sous traitement durant 2 ans et demi. Donc, j'ai arrêté mon traitement avec l'accord de mon psychiatre parce que ça faisait plus de 2 ans que j'étais, J'étais sous traitement après une première crise psychotique et en général on arrête le traitement à ce moment-là, en tout cas on le diminue jusqu'au minimum et après on peut tenter un arrêt, voir comment ça se passe. Je me suis senti revivre à ce moment-là d'ailleurs.
Ouais.
J'ai repris vraiment le sport, j'ai pris beaucoup de poids à cause du traitement et de mon inactivité durant la convalescence. Je m'étais remis en forme, je me sentais vraiment bien à cette époque-là. Et bah, tout est 6 mois après, l'arrêt du traitement, au moment des examens, la fatigue, le stress, j'ai rechuté. J'ai rechuté pourtant. Je me sentais très bien à ce moment-là, mais ouais, c'est comme quand on n'est jamais à l'abri. Mm-hmm. Je suis assez vite revenu au final parce que j'étais conscient de mes troubles à cette époque-là. Alors que la première fois, j'étais pas conscient. J'étais clairement dans le déni, clairement dans mon délire. Et cette fois-ci, j'étais tiraillé entre le côté délirant de moi-même qui me poussait vers la paranoïa, les hallucinations, etc. et le côté, la raison en quelque sorte qui disait que maintenant t'es en train de repartir, t'es en train de rechuter. Et ça m'a mis dans un grand désarroi à ce moment-là, mais au final, j'ai été bien accompagné, bien suivi, je suis vite revenu.
Ouais, et le fait que tu aies déjà eu finalement l'expérience, pour en revenir au terme, l'expérience de ta première crise, on va dire. C'est des outils, des billes que tu avais eues, enfin, tu avais déjà vécu ça, donc du coup tu t'es appuyé là-dessus en disant tiens, je rechute, enfin, c'est ce qu'on appelle le savoir expérientiel.
Oui, c'est finalement. Ça justement, c'est exactement ça, c'est reconnaître les troubles. Et aussi, c'est important d'avoir un contact avec la réalité dans ces cas-là, enfin, je parle pour la schizophrénie, parce que on part souvent dans le délire, on se déconnecte de la réalité, on a une perception qui est erronée, et d'avoir des personnes de confiance qui nous raccrochent la réalité, qui sait qu'on peut les croire, eux, que, malgré contre vents et marées, qui nous soutiennent, et ça a été très important à ce moment-là pour moi, et ça a permis de revenir assez vite. Et là, ça fait trop long que je suis stable. J'ai obtenu ma licence en janvier 2020, donc j'ai fini mes études en psychologie en janvier 2020. J'ai rencontré Pouvoir d'agir entre-temps. On avait fait un entretien, parce que durant ma licence, je m'étais assez vite rendu compte que je n'irais pas au bout de la formation de psychologue.
Ouais.
Enfin, le mémoire, c'est toujours ce qui m'a terrifié. Je pense que ça parlera à certains, à mon avis. Et donc au final, mon père s'était renseigné et un peu sur ce que je pouvais faire avec une licence de psycho et quels débouchés je pouvais avoir. Il a entendu parler de la session Pouvoir d'agir et du travail de père aidant. Il m'en a parlé et ça m'a tout de suite botté. Enfin, parce que moi, déjà en plus, j'étais parti en psychologie pour aider des personnes qui, comme moi, avaient des difficultés, justement. Mmh. Au début, je voulais me tourner vers les addictions, être psychologue dans les addictions, justement, parce que j'étais moi-même très addict par cannabis, etc., aux drogues à l'époque. Mmh. L'alcool aussi, un peu quand même, le tabac beaucoup. Bon, ça, je suis toujours un gros fumeur, mais ça, c'est le moindre mal parmi les autres. Et donc, j'ai déjà ces notions de père, des notions d'aider par mon vécu, d'aider des personnes qui ont des problèmes similaires, en fait. Et au fait, la pérédance, ça apparaît comme une évidence, justement, quand j'ai découvert ce que c'était, que ça existait. Et après ma licence, je suis retourné voir Pouvoir d'agir, j'ai fait un stage avec eux l'année dernière, d'un mois. Et au final, de fil en aiguille, à la fin, le stage s'est très très bien passé. J'ai vraiment aimé ce que je faisais, ça avait vraiment du sens pour moi. Et à la fin du stage, je leur ai demandé si je pouvais rentrer dans l'association. Et donc ils ont accepté, ils ont délibéré entre eux, ils ont accepté. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Pouvoir d'agir fonctionne en gouvernance partagée. Mm-hmm. On pourra peut-être y revenir. Mais donc il faut que tout le monde ait pris la décision et soit comme un accord pour que cette décision soit définitivement prise. On est dans le consentement, justement, collectif. Et donc j'ai fait partie de l'association et après, de fil en aiguille, je suis devenu travailleur pair, donc pair aidant professionnel au sein de l'association.
Merci pour ce témoignage. On voit bien où tu en es aujourd'hui. Donc, tu as passé un peu le cap d'être aidé à être aidant. C'est bien. Aujourd'hui, tu te sens plus père aidant que dans la nécessité d'aider.
Oui, bien sûr. Après, on peut toujours être... Ça a toujours les deux sens. Et puis, c'est un peu une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de notre tête. On sait que le rétablissement, c'est pas définitif et que ça peut tourner dans les deux sens. Donc, il faut toujours être attentif à ça, faire attention. Et on a mis en place des stratégies, des techniques dans la SAUVE, le plan de crise notamment, pour prévenir des troubles. Et on a bien vu par le passé dans la SAUVE qu'une personne est à l'abri. Donc il faut toujours rester attentif à ça et j'avais toujours gardé une certaine humilité vis-à-vis de ça quand même. Pas se dire que c'est bon, le plus dur est passé et maintenant ça te va rouler. Quoi. Mm-hmm. Toujours avoir un certain recul. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me mets plus en situation d'aider les autres et puis c'est la finalité au final. Je pense que on a traversé les difficultés et si à travers sa voie expérientielle, de la connaissance de la maladie, des troubles, de ce qu'on traverse, et aider des personnes qui commencent, qui tombent dedans, qui sont en plein dedans, ou même prévenir simplement, enfin, de la prévention, ça c'est toujours le meilleur moyen. Et puis oui, bah, j'essaie d'agir à mon niveau, mais ça se passe bien. Oui, c'est, moi ça me satisfait beaucoup et je vois clairement au quotidien que ça aide, ça a du sens et c'est valorisant en plus de, pour nous, en aidant les autres, on s'aide soi-même, donc c'est ça qui est bien aussi.
Toi, Delphine, tu as aussi une formation un peu plus universitaire, je crois, lyonnaise.
Ouais. Ah, alors moi, c'est Delphine Lasne, j'ai bientôt 45 ans. Je souffre de troubles bipolaires depuis maintenant 20 ans à peu près. Ça s'est déclenché à l'arrivée de ma première fille, j'ai trois enfants. De ma première fille, 2 mois après avoir accouché, j'ai perdu énormément de poids. J'ai perdu un peu plus de 50 kilos, ça a chamboulé toute ma vie. Donc j'ai changé de boulot, changé de mari, changé de déco. Et puis tout s'est enchaîné super vite. En fait, j'ai multiplié les heures par 10. Donc en 24 heures, je faisais 3 jours. Ouais. Et puis ça a été comme ça pendant 5-6 ans. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon deuxième mari. Et puis là, j'ai décompensé, j'ai été hospitalisée. On m'a dit que j'étais vraiment bipolaire à 100%. Donc à partir de...
Ce qui est du pourcentage.
Voilà, c'était reliquat. Donc à partir du moment où les mots ont été posés, c'était plus clair parce que le traitement était adapté. Et quand du coup, les idées s'enchaînaient plus vite, je sentais que c'était, voilà, c'était pas normal. J'ai eu une formation d'aide-soignant que j'ai exercée pendant 15 ans en HAD, donc j'étais aide-soignante la nuit. J'étais sur la route du département, ça me procurait énormément de joie et de plaisir, sauf que du coup mon traitement, je ne dormais pas, donc c'était pas jouable. Donc j'ai été retirée de l'entreprise par la CNIA et ma vie était un gros bazar, hein, clairement. J'avais 3 enfants, mon mari n'avait pas d'activité professionnelle. Moi, je ne gérais pas du tout le quotidien. Et un jour, j'ai reçu un avis d'expulsion de chez moi. J'avais tout perdu, j'étais surendettée. Et là, il ne s'agissait plus que de moi, en fait, il s'agissait de ma famille. Et là, c'était un gros choc, en fait. De savoir qu'un jour on pouvait me retirer les enfants parce que je n'agissais pas en fait comme il fallait. Donc j'ai fait un dossier de tutelle, ça a été assez radical, mais j'ai été voir un expert qui a rempli le dossier avec moi et la juge, à titre exceptionnel, m'a accordé cette mise sous tutelle. Donc en 2016, j'ai été sous tutelle renforcée par l'UDAF 49. Donc du jour au lendemain, ma vie ne m'appartenait plus. Je n'avais juste le droit de respirer. J'avais encore l'autorité parentale, mais le reste était retiré. Sauf que là, mes enfants ont été protégés parce que toutes les factures ont été payées. Et j'ai pu avoir du temps pour prendre soin de moi. Et ce qui était... Le premier pas d'un rétablissement, ça a été la première marche en fait, quand j'ai pris régulièrement mon traitement. Je suis rentrée en service de réhab et puis là je me suis dit, mais j'avais rencontré des gens qui m'auraient dit, mais ce que tu fais c'est dingue, moi je m'en suis sortie comme ça. Ça n'existe pas ça. Ouais. Et pourquoi ça n'existe pas? Et on m'a dit, ça existe, pas dans le Maine-et-Loire, mais ça existe. Donc je me suis rapprochée du 44, parce que dans le 44 ça existait. Et puis j'ai entendu parler de la promo de Lyon, un diplôme universitaire en père et danse, qui était la première promotion en 2019. Donc je me suis inscrite, j'ai passé l'oral, j'ai été retenue. Donc j'ai vécu un an de cours universitaires avec en plus le Covid. J'ai fait mon stage à Pouvoir d'agir.
D'accord.
Et j'ai fait mon mémoire sur Pouvoir d'agir. D'accord. Et la légitimité de la place que je pouvais avoir en tant que père aidant et non aidant. D'accord. C'était vraiment quelque chose où il fallait que je trouve cette légitimité à aller aider l'autre, oui. Que je trouve en ce ressenti. Et j'ai passé mon mémoire en septembre 2020, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai fait de la pérédance à titre bénévole. Et puis j'ai eu cette joie et d'être recrutée à pouvoir agir en avril comme travailleur pair, donc pair et non professionnel. Et du coup, bah maintenant, le fait de... je sais même pas si quand je viens à pouvoir agir, je dis que je fais mon métier. Ça nourrit tellement mon jeu.
C'est naturel.
C'est naturel. J'ai l'impression de faire ça tellement naturellement que ça fait partie de moi. Ça fait partie intégrante de moi. Et le fait d'aider les autres, c'est comme s'ils m'aidaient moi, vice-versa. Et je sais qu'ils peuvent tout entendre comme je peux tout entendre.
Il y a une réciprocité.
Une réciprocité, bon. En fait...
dans l'offre, l'accueil, le
retour. Oui, dans tout ce qui est proposé, et on se retrouve tellement dans ce que les autres partagent, même si on ne souffre pas des mêmes troubles, hein, mais on a cette empathie naturelle, hein, de partager le même parcours au final. Quand on souffre, quel que soit le trouble. Hein.
Qu'est-ce que tu as fait comme formation pour devenir père aidant professionnel ?
Par un diplôme universitaire de père aidant.
Et tu as trouvé ça où ? Comment tu as su qu'il fallait faire cette formation ?
L'université Claude Bernard à Lyon.
D'accord.
Qui la propose.
C'est la seule en France ?
Alors pour l'instant, c'est la seule en France, oui. Il y a la licence professionnelle qui est en SECOM à Paris.
C'est
pour devenir médiateur MSP.
Médiateur santé-père.
De santé-père, c'est ça. Et il y avait le diplôme universitaire de Lyon. Mais il y en a plein maintenant qui naissent de ça, hein, puisque dans le handicap, père aidant peut être dans plein d'autres secteurs. Alexandre parlait tout à l'heure de l'addicto, oui. En diabéto aussi, et de la père aidance partout. Donc la RIFT propose une formation intervenant père. Bordeaux est aussi en préparation d'un diplôme. Ça commence à faire émulation un
c'est
petit
ça.
Peu.
C'est ça, parce qu'on se rend compte qu'il faut aller. Enfin, c'est pas qu'il y a un frein, mais il y a un manque quelque part, il y a un trou dans la raquette, et que voilà, c'est une plus-value énorme d'avoir les compétences de quelqu'un qui a vécu la maladie et qui s'est reconstruite et qui s'est rétablie et qui peut aller le dire à l'autre d'égal à égal. En fait, je pense que ça, c'est une plus-value énorme. Revenir avec vous sur le moment de l'annonce du diagnostic de la maladie. Enfin, ça a été quelque chose, j'ai l'impression que pour vous deux, ça a été une étape très importante dans votre parcours de soins en fait.
Parce que chez moi, il n'y avait pas de déni. En fait, j'avais l'impression de revivre. Alors, c'était quelque chose de naturel. Sauf que comme je courais toute nue un peu partout, et que ma famille me disait que c'était pas naturel.
Ça peut poser quelques problèmes.
Quand on m'a dit, bah non, mais tu souffres de troubles de la bipolarité, là je me suis dit, bah oui, bah non, c'est pas naturel.
Et on a mis un temps fou à te le dire ?
Non, on n'a pas mis un temps fou à me le dire, parce que chez moi, il y avait beaucoup de facteurs qui identifiaient en fait le rapport à l'argent, l'excessivité dans beaucoup de choses. Les troubles du sommeil, tout était tout. Alors en fait, même sans la psychiatre a mis quoi un entretien de me dire bah là non mais cherchez plus hein. Vous êtes et elle a été cash en fait. Elle m'a dit vous êtes bipolaire. Elle a pas tourné autour du pot. C'était brutal, mais je l'en remercie parce que du coup j'ai pas cherché ailleurs.
Et derrière, après, est-ce que toi, tu t'es renseignée sur la maladie ou c'est plutôt les infirmiers qui t'ont apporté des billes ou c'est
la réalité ? Non, on va tous sur Doctorissimo, voilà. À tout chercher des infos à droite, à gauche, les remèdes miracles. J'ai tout tenté, j'ai tout essayé d'arrêter le traitement, de le reprendre, d'en prendre une fois sur deux, et puis non. On se rend vite compte qu'en fait, avoir une hygiène de vie irréprochable. Et puis un traitement, un accompagnement par les soins, un accompagnement par les pairs, ça reste aujourd'hui une des meilleures
recettes
et réponses à un rétablissement durable et de bonne qualité.
Et toi, Alexandre, ce moment du diagnostic
Comme je vous ai dit, ça a paru en décembre 2014. J'attendais quand même un certain temps avant d'avoir le diagnostic final, bon, ça a mis du temps quand même.
Et tu le demandais ?
Ouais, en fait, moi ce que je dis par rapport au diagnostic, c'est connaître ton ennemi tout simplement, c'est savoir contre quoi on se bat et contre quoi on lutte tout simplement. Et après, comme dit Delphine, après quand tu connais mieux la maladie, tu sais comment t'en prévenir, t'en défendre quoi. C'est vrai que quand ça tombe dessus, tu sais pas du tout ce qui te tombe dessus, t'es complètement paumé quoi, t'as pas les armes pour te défendre quoi. Mais moi, ça a mis du temps, oui. J'ai fait ma crise psychotique aiguë, c'est ce qu'on m'a dit à l'hôpital, une bouffée délirante en gros, décembre 2014, et j'ai eu le diagnostic final en juin 2019. Comme quoi, là, j'étais schizophrène paranoïde. Mais ça a mis, oui. Mon psychiatre avait déjà abordé à l'époque la schizophrénie, mais il était toujours un peu évasif, il se mouillait pas trop, quoi. Et là, vraiment, j'ai été pris en charge par un centre expert à Versailles, spécialisé là-dedans, et qui m'a vraiment. Voilà, j'ai passé une batterie de tests, des entretiens avec des professionnels, et là, bon, là c'était sûr. Voilà. Mais c'est vrai que ça met du temps et c'est important le diagnostic, c'est savoir contre quoi tu luttes, quoi, en fait. Qu'est-ce qui décolle chez toi, quoi.
Je trouve ça très intéressant, ce passage-là du diagnostic, parce que moi, en ayant fait des études d'éducateur spécialisé, j'avais un peu cette posture de me dire qu'il fallait pas mettre les gens dans les cases. Et donc, on était toujours tiraillés dans ce côté « Ouais, mais si tu dis schizophrène, ça le met dans une case. Si tu dis bipolaire, ça le met dans une case. » Mais quand j'entends les gens, ça nous a fait du bien. C'est venu mettre un mot sur une pathologie et c'est une base qui te permet de te reconstruire. Et j'ai aussi l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, que ça vient soulager l'environnement. C'est-à-dire que mon enfant, il est pas bizarre, il a quelque chose. Est-ce que c'est complètement déconnant ce que je viens de dire? Ou est-ce que ça vous parle un peu ce que je viens de dire?
Moi je entends bien la notion de case, hein. J'ai horreur de mettre les gens dans des cases, de juger les personnes au premier abord et les enfermer de manière générale. C'est vrai que moi ça m'a vraiment soulagé de savoir ce que j'avais bien sûr. Et puis comme tu l'as dit, au niveau même de la famille, de l'entourage, ça explique quand même les choses un peu bizarres qui ont pu se passer, qui ont pu se produire, qu'on a pu dire, qu'on a pu penser, et ça apporte une justification. Après, faut pas faire ressentir, pas mettre une étiquette sur la personne après, quoi, ça c'est clair.
Enfin, tu n'es pas que schizophrène.
Bien entendu, c'est un tout, hein, la personnalité, c'est un tout de ma personnalité, c'est mon parcours, c'est même devenu une partie de ma profession maintenant, donc c'est lié à ça.
C'est une force, ouais.
C'est ça.
Une force expérientielle.
Moi, c'est ça que j'aime bien. Je crois que Delphine n'est pas tout d'accord avec moi sur ce point-là, mais pour moi, la maladie, c'est quand même quelque chose de très mauvais qui m'est arrivé. Enfin, qui m'a clairement prouvé la vie. Ça, c'est clair. Mais derrière, on retourne un peu le truc, quoi. C'est que de quelque chose de très négatif, ça, c'est mon point de vue, quelque chose de très négatif qui vous tombe dessus, vous transformez quelque chose de positif et un plus pour les autres et pour vous-même. Et puis. Non, c'est ce qu'on a l'opportunité de faire dans notre travail, justement, c'est refaire ressortir ce qu'il y a de meilleur, justement, chez les gens et leur donner du sens dans tout ça. Nous, c'est de l'accompagner dans des projets, et c'est vrai qu'il faut retourner le truc, quoi. Moi, je sais comme ça.
Une capacité à rebondir.
Ouais, on parle beaucoup de résilience en ce moment. C'est un peu ça. C'est souvent, on se laisse couler, on se laisse entraîner par la maladie et on n'arrive jamais à sortir la tête hors de l'eau, soit on rebondit justement. C'est pour ça une chanson, excusez-moi, mais prendre du recul pour mieux reprendre de l'élan, par exemple. Quand ça nous tombe dessus, on a besoin d'un peu de temps pour accepter ça, pour surmonter ça et pour au final rebondir encore plus loin qu'on aurait pu aller à l'origine, quoi.
T'as un autre point de vue. Quel est ton point de vue, toi, David?
Bon, en fait, oui, moi, j'ai. À partir du moment où ma vie a changé à cause des troubles, comme c'était moi, en fait, moi, j'étais à l'origine de tout ça. Ça m'a pas plus perturbée que ça, à part que j'avais le droit d'avoir ce côté fou. Ça a mis une lumière, je pouvais être. Folle, et en fait j'avais le droit d'être folle parce que j'étais bipolaire.
T'as le ticket.
Alors de temps en temps, comme on me disait, mais t'es complètement mais dingue, je disais ouais, mais je suis bipolaire. Et ça m'ouvrait, mais alors. Et pour ma famille, en revanche, moi j'ai pas ce côté ce côté-là avec ma famille. À partir du moment donné où ils ont su que j'étais avec cette étiquette bipolaire, ils m'ont dit, à chaque fois qu'ils me voyaient faire un truc, ils me disaient « Ah, t'es pas en rechute ». Et ça, je ne le supportais pas.
Mais oui, c'est
ça, bizarre. C'était devenu... Et le fait d'être du coup placée sous tutelle, je leur enlevais le droit de dire quoi que ce soit. Ils n'avaient plus le droit de rien dire. Et j'avais mis ma vie dans les mains d'une professionnelle. Et je pouvais faire ce que je voulais. Raisonnable. Hein. D'ailleurs, je suis là avec vous, donc je suis toujours restée dans le raisonnable, mais j'avais le droit d'être qui je voulais. Et, je dis pas, hein, il y a des matins quand je me lève et que j'ai décidé de pleurer toute la journée et puis de savoir comment je vais me faire mal pour éviter de ressentir cette souffrance ou de tomber dans l'apéro ou les médicaments. Il y a des jours où c'est plus fort, hein. Ça n'empêche pas, mais ça permet de pouvoir rebondir.
Alors j'ai bien entendu que vous aviez trouvé pour certains du refuge dans la famille, du refuge dans les équipes soignantes, dans les certaines institutions d'accompagnement, mais aujourd'hui c'est de la pérédance, c'est-à-dire que c'est entre soi, des gens qui sont capables de s'entraider par rapport à leur expérientiel et leur parcours de vie. Pourquoi il n'y a pas plus d'associations de pérédance aujourd'hui ?
Mais il y en a beaucoup.
Il y en a déjà beaucoup.
Mais les alcooliques anonymes sont des pérédants.
Oui, donc ça c'est plus reconnu dans l'histoire. Aujourd'hui c'est plus accepté. La pérédance au niveau des troubles psychiques, c'est quelque chose qui est en émergence. C'est quelque chose qui... Enfin, pouvoir d'agir va faire des petits un peu partout. Ils sont déjà là. J'ai entendu parler d'autres associations en France, mais j'ai pas l'impression que ça soit aussi ouvert que d'autres associations et que ça soit... Enfin, j'ai l'impression que c'est en cours de développement.
Alors, c'est en cours de développement depuis maintenant bientôt 10 ans.
D'accord.
Le sud de la France a été très marqué par déjà cette ouverture-là. Esper Pro a déjà une vie, un parcours déjà bien ancré. Le chez-soi d'abord, il y a eu beaucoup d'émulation. Paris a pris la suite, Lyon, dans les grandes villes, ça a été travaillé. Après, quand on part dans les régions, il y a moins. Alors, pouvoir d'agir fait un peu
tâche d'encre là.
Tâche d'encre dans l'ouest de la France, parce qu'effectivement, c'est dans son fonctionnement atypique. Des pères aidants qui s'autogèrent, qui autogèrent.
C'est vrai qu'on n'a pas insisté là-dessus, oui. Sur
le fait que,
c'est le fait que l'association, et donc pour les personnes qui ont des troubles psychiques, comme beaucoup d'associations, mais aussi dirigées, gérées par des personnes qui ont des troubles psychiques, justement.
C'est ça qui fait nuance,
Et ça, c'est ça qui est assez novateur, c'est qu'on donne la main vraiment, même les pleins pouvoirs, à des personnes qui ont des troubles. Et donc l'important, justement, c'est que c'est un précédent, donc ça peut peut-être inspirer d'autres associations par la suite. C'est le dicton « rien sur nous, sans nous », en gros, quoi, c'est...
Rien sur nous, sans nous.
Voilà, on veut participer aussi, je pense qu'on a... Je disais Maria tout à l'heure, c'est qu'on a un peu le chaînon manquant dans l'accompagnement. Bon, là, ça bouge beaucoup, mais c'est un peu le chaînon manquant. C'est qu'aussi les malades soient aussi représentés dans les institutions.
Dans les instances.
Dans les services, qu'ils aient leur place, leur mot à dire. C'est un plus, c'est toujours un plus. C'est complémentaire, ça ne va rien remplacer, c'est juste complémentaire. Et pour toujours accompagner au mieux les personnes. Enfin, c'est la finalité, c'est que les personnes aillent bien au final. Oui. Et je pense que qu'on libère la parole autour de des personnes qui sont atteintes de troubles dans notre secteur, bien entendu le trouble psychique, voilà, ça marche aussi pour les autres types de pères aidants. Mais au moins libérer la parole et puis
et leur donner la place aussi dans les instances de décision, les instances. Même des permanences à imaginer, des accompagnements. On dit bien aussi que les soignants sont overbookés en ce moment. Pourquoi pas des accompagnements à l'extérieur, des permissions d'accompagnement avec un père aidant. Enfin, voilà.
Ça ouvre un champ des possibles.
Ça ouvre un champ des possibles.
C'est énorme.
Et un partenariat, en tout cas, avec les soignants. Enfin, main dans la main, quoi.
C'est un main dans la main, oui. Parce que même en tant que père aidant, je connais pas. Dans l'association, dans le parcours de père aidant que j'ai à l'extérieur, parce que je suis dans d'autres associations à titre bénévole à l'extérieur, Et je ne connais pas de père aidant qui n'ont pas un parcours de soins validé. Donc ça fait vraiment partie du parcours. Et souvent, quand on adhère à une association, on nous demande si on a un parcours de soins. Et c'est important pour l'association de pouvoir compter sur ce parcours-là.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Ce que je retiens de cet entretien, c'est qu'on a beaucoup dit que l'usager devait être au cœur du dispositif ou au cœur de son rétablissement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut surtout penser à lui redonner son pouvoir d'agir.
L'empowerment, c'est l'une des valeurs de l'association, justement. C'est se mettre en action, c'est justement le nom de l'asso, l'empowerment, le pouvoir d'agir, justement. C'est se mettre en mouvement, retrouver une dynamique positive, en gros, quoi.
Et nous, en tant que soignants, il faut aussi qu'on fasse attention à ça, à être conscient qu'on ne doit pas parler sans vous, on ne doit pas prendre des décisions sans les personnes, et qu'on n'est pas au-dessus, qu'on est ensemble. On parle d'horizontalité des parcours. Et, merci pour aujourd'hui.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci.
Un autre regard ?
Une émission proposée par le collectif Santé Mentale 53.
C'est complètement possible de franchir ce qui était des barrières avant.
Avec un autre regard.